Les pieds sur terre, Sonia Grönlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Les Japonais les appellent hikikomori. Le mot veut dire se retrancher et le phénomène est apparu au début des années 90 dans un pays en pleine crise. Il désigne ces jeunes personnes, des garçons surtout, reclus chez elles et qui ne prennent plus part à la société depuis au moins 6 mois. Ils ou elles ne souffrent cependant d'aucune pathologie mentale diagnostiquée. Il y aurait actuellement au Japon entre 500 000 et 1 million d'hikikomori. C'est un peu vague. Chez nous, on préfère parler plus lointainement de phobie scolaire, de retrait social, de décrochage scolaire ou encore simplement de mollesse. Même s'ils sont plus ou moins reclus, certains vont quand même faire des courses ou prennent des repas en famille. Et cette forme d'enfermement, d'éloignement de la société est tout aussi inquiétante en France. Elle est évidemment alliée aux écrans, mais pas uniquement. Au Japon, il se peut d'ailleurs qu'on soit encore hikikomori à 50 ans. Et plus le temps passe, moins on a de chances d'en sortir. En France, on s'arrête avant ou on trouve un mot différent. Tout de suite, deux histoires de jeunes et d'enfermement donc racontées par leur mère qui ne disent sans doute pas tout à Stéphanie Thomas.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Marion, j'ai 52 ans, je suis mariée, donc j'ai deux fils, 24 et 20 ans. Mon fils aîné, qui s'appelle Alexis, a toujours été un petit peu compliqué, un enfant assez introverti, très brillant. Et je me rappelle très bien ce jour où la maîtresse de CM2 m'a reçue et m'a adressé des tas de compliments concernant cet enfant en me disant « il est excellent, il répond toujours avant les autres, j'écris une équation au tableau et je me retourne, il y en a un qui n'est pas en train d'écrire, mais c'est parce qu'il a tout dans la tête, c'est Alexis ». Et donc je buvais du petit lait et tout d'un coup elle m'a dit « mais honnêtement il n'a pas l'air du tout heureux à l'école ». Et là je me rappelle très bien que je suis rentrée à la maison, je me suis mise à pleurer parce que c'est quand même assez terrible. Et elle m'a surtout dit « il ne bouge pas, il pourrait entrer au musée Grévin ». Quand je dis « il ne bouge pas », il ne fait pas un geste. Donc ça c'est des signes quand même qui sont assez inquiétants. À la maison, il bougeait, mais il a de plus en plus squatté sa chambre. Hein. C'est-à-dire qu'à l'entrée au collège, il était toujours aussi excellent, mais une espèce de tristesse et surtout une envie de rester à la maison, de pas du tout sortir pour aller au collège. Mais ça a été de mal en pis. Alors en seconde, là, gros problème, c'est qu'il veut plus du tout sortir de la maison pour aller en cours. Et de temps en temps, il ne veut pas se lever le matin. Il ne se lève pas le matin. C'est-à-dire que j'arrive dans sa chambre, il est encore en train de dormir. Alexis, lève-toi. Il ne se lève pas. Avec son père, on a passé des moments très pénibles à hurler. Alors son frère était à côté, il nous entendait hurler. C'était très pénible pour lui aussi. Je me rappelle très bien du jour où je prends un bro à eau, j'en suis pas très fière franchement, je lui balance de l'eau sur le visage pour qu'il se réveille. Il n'a aucun geste, là pour le coup il bouge pas non plus. Et avec son père, on le lève comme ça, on le prend par les pieds, moi je le prends par les épaules, on essaie de le mettre debout. Et je me dis en moi-même, mais un gamin qui refuse de sortir et d'aller à l'école, c'est pas possible. Et je lui dis, mais c'est obligatoire, Alexis, c'est obligatoire d'aller à l'école. Tu ne vas pas cesser d'aller à l'école maintenant. Donc c'est son désamour de l'école qui l'a fait rester à la maison dans un premier temps. À l'époque, on avait fait les choses bien. Il n'y avait pas de télé, pas d'ordi. Bon, donc on se demandait ce qui se passait. Est-ce qu'il avait pris, est-ce qu'il fumait du cannabis? Est-ce que ça, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit? Parce que fumer du cannabis, ça donne vraiment très envie de dormir. Donc, on ne savait vraiment pas ce qui se passait. Mais en tout cas, un refus farouche d'aller à l'école. Et je m'ennuie, je ne veux pas y aller, alors qu'il avait été excellent. Une mère d'un de ses copains me dit, de toute façon, ils sortent la nuit. Elle avait le même problème avec son fils, qui dormait toute la journée, donc il ne sortait plus de sa chambre. Elle m'a dit, ils sortent la nuit, c'est pour ça qu'ils ont envie de dormir le matin. Et moi, qui suis pourtant un peu insomniaque, je me réveille souvent à 3h, et une nuit, à 3h, je vais voir dans sa chambre, et effectivement, en plus, il avait mis les couvertures à la couette de telle façon qu'on a l'impression qu'il y avait un corps qui dormait, et en fait, il n'était pas là, et c'est là que j'ai découvert que lui, quelques-uns de ses copains, passaient des nuits dans des salles de jeux vidéo, ouvertes, non-stop, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je savais qu'il y en avait une à côté de la maison, et à 3h, régulièrement, je me suis retrouvée dans ces salles, en hurlant « Alexis, qu'est-ce que tu fais là ? Rentre à la maison !» Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il passait des heures. Les heures qu'il ne passait pas à l'école, il les passait dans ses salles de jeu. Donc je pense que c'était un refuge. Je pense, le refuge peut se terminer en addiction au bout d'un moment. Qu'est-ce que ça veut dire addiction ? C'est quand on a plaisir à faire quelque chose, tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'il ne faisait pas dans le réel, c'est-à-dire suivre un cursus scolaire, avoir des bonnes notes, il le faisait dans le virtuel. C'est le serpent qui mord la queue, parce que plus on joue, plus on s'enferme, plus on s'enferme, plus on est sur Internet, on n'en sort pas, quoi. Et puis parfois on arrivait à le ramener, parfois pas, et là je me disais, mais qu'est-ce que je fais ? Je me sentais extrêmement seule et personne n'était là pour m'aider. Alors évidemment, on a consulté des psys, on a une thérapeute familiale qui était nulle, enfin, la plupart des gens ne le savent pas. Les psys dits spécialistes en jeux vidéo le recevaient, on a un notamment, je me rappelle très bien, il l'a reçu, moi j'étais dans la salle d'attente, enfin, puis après il m'a dit, il n'y a aucun problème, il arrive à gérer, il n'est pas du tout accro. Donc la journée il était enfermé dans sa chambre, et la nuit il était enfermé d'une autre façon dans une salle de jeu. J'avais beaucoup de mal à dormir, du coup on se croisait à 5h, moi je me levais, ou à 6h, je me levais et puis lui il allait se coucher. Enfin non, mais c'était épique. Je frappais et je lui disais « Alexis », et j'entendais « Non !» Non, donc exactement le refus total, refus de parler, même pas « Non, je refuse de te parler », c'est « Non, non, tu me laisses tranquille ». Donc il calait un meuble derrière sa porte pour être sûr que j'entre pas. Parfois pour aller à table, je lui disais « on mange, tu viens, j'ai pas faim ». Et donc il se débrouillait pour manger autre chose. Il avait déjà 15 ans quand il a commencé à sécher les cours. Et à 15 ans, on trouve plus d'école Montessori. Enfin je veux dire, plus grand chose. Hein. Et puis bon, à la fin de la seconde, on a eu des tas de rendez-vous avec l'adjoint du proviseur qui lui disait « Alexis, tu vas redoubler, t'es au courant, tu vas redoubler ». Et il lui disait « oui, je veux faire un effort », mais en fait, il n'y arrivait pas. Enfin, c'est une espèce de flemme, et puis il ne se levait pas, tout simplement. Donc, il a redoublé, mais on l'a mis dans un internat pour faire en sorte qu'il arrête de jouer. On l'a mis dans un internat et bon, ça a marché un petit temps. Et puis après, il a commencé à sortir de cet internat pour rejoindre d'autres salles de jeu, etc. Lui, il est absolument détesté pour quelqu'un qui est atypique, qui est un petit peu en retrait social comme il l'était. C'est vraiment un cauchemar. Et pour nous, c'était un cauchemar parce que voir son gamin pas heureux, c'est un cauchemar. Voilà, on n'a aucun intérêt à voir un gamin... Enfin, je me rappelle les crises qui piquaient quand il devait rejoindre le lundi matin de très bonne heure le car qui allait amener à son internat. C'était pas drôle. De la seconde à la terminale, il a passé ses 3 années à l'internat, donc. Sauf qu'il était de plus en plus malheureux, il y allait de moins en moins. Et en début de terminale, il a commencé à fuguer de l'internat. Et ça, la fugue, c'est vraiment pas un bon signe du tout. Donc, en accord avec le psy qu'il voyait à l'époque et avec le proviseur, bon, on l'a pas déscolarisé, mais enfin, bon, il a eu une autorisation de s'absenter. Enfin, bref, je sais pas comment on dit. Enfin, il a quand même réussi à avoir son bac, pas très brillamment, mais il l'a eu. Donc ça, c'était très bien. Et progressivement, il continue avec ses jeux, évidemment. Et puis après, il a passé un concours. Pour avoir une école d'ingénieur, sans passer par la prépa, c'était prépa intégrée. Il a eu, et là c'était quand même assez incroyable, parce qu'il a eu des très bonnes notes à l'oral, lui qui ne prononçait pas 3 mots devant nous. C'est quand même un profil très très particulier. Donc ça c'était après le bac. On l'a installé à Reims, dans une espèce de résidence étudiante. C'est son école. Il rentrait tous les week-ends. Hein. 3 mois après, je reçois un coup de fil de la fille qui s'occupait de l'administratif à l'école, qui me dit... On ne connaît pas Alexis, il n'a pas mis les pieds à l'école. est-ce qu'il est démissionnaire ? Et là, le ciel me tombe sur la tête. Je me dis, c'est pas possible, ça recommence. On l'avait pourtant bien installé. Il rentrait tous les week-ends. Il nous disait que son école était, lui plaisait, que ça allait. Et là, je prends un billet de train pour aller à Reims. J'avais tellement peur qu'en découvrant que je savais qu'il fasse une bêtise, enfin, je sais pas, j'avais très peur, là. J'ai appelé la résidence étudiante. J'ai dit, est-ce que vous connaissez mon fils ? Et le type m'a dit, oui, mais effectivement, je le vois très peu. Je le vois pas au petit déjeuner avec les autres. Il reste souvent dans sa chambre. Et là, j'ai failli lui dire, pourquoi vous me l'avez pas dit ? Mais en fait, il était majeur. On n'a plus ça qui fait peur, c'est qu'à partir du moment où le gamin est majeur, on n'a plus aucune prise. Donc, je vais à Reims, je vais dans sa chambre. Le type de la résidence étudiante m'a ouvert sa chambre. Il a compris quel était l'enjeu quand même. Et là, il n'était pas dans sa chambre, mais je vois que ses livres sont encore sous pellicule, pelliculés, quoi, enfin qu'il ne les a pas ouverts. Donc ça faisait 3 mois. Et après, on a discuté, il a dit « ça ne me plaît pas », etc., etc. Il est rentré à la maison. Je ne lui donnais plus aucun argent de poche, mais même pas 1 euro. Et là, tout d'un coup, Alexis me dit « je n'ai pas besoin d'argent. Je gagne un petit peu d'argent, mais comment ?» Eh bien, par des jeux vidéo, je fais des tournois. Et au lieu de lui dire « t'es encore dans tes jeux vidéo », franchement, j'étais contente. Non pas que je ne pense qu'à l'argent, mais enfin, ça voulait prouver qu'il était capable de faire quelque chose. J'ai compris qu'il faisait partie d'une équipe, qu'il participait à des tournois et que parfois, il y avait des cash prizes, qui gagnaient de l'argent. Quelques temps après, j'ai appris, en allant sur Internet, qu'il participait à un tournoi à la Paris Games Week. Ça se passe à la porte de Versailles, donc c'est une espèce de grand salon des jeux vidéo. Et donc, je me débrouille pour savoir quand c'est, et avec son père, on y va. Et alors là, grosse surprise, une ambiance de concert dans la salle, des jeunes, enfin c'était absolument bondé. Il y avait 2 commentateurs sportifs de e-sport, donc, puisque ça s'appelle du e-sport, qui était là avec micro-cravate, qui parlait très très vite. Enfin, c'est des codes, des espèces de codes bizarres. Parce que j'en ai déjà entendu au foot, évidemment, donc ils ne parlent pas si vite, mais là, ils parlent très très vite, on ne comprenait pas. Je vois mon fils sur l'estrade, retransmission sur écran géant, donc je vois son visage en énorme. Et donc, il participait à un tournoi à la Paris Games Week, commenté par ces 2 commentateurs, avec des gamins qui se lèvent et qui hurlent et qui crient son nom, Alexis, Alexis. Et nous, on était avec son père dans une espèce de petit pool où étaient réunis les parents, les VIP, enfin. Et heureusement qu'il y avait une journaliste spécialisée en jeux vidéo qui m'expliquait pourquoi son jeu était excellent, parce que moi, je comprenais rien. Donc, avec son père, on se levait 1 seconde après les autres. Et après, quand il est sorti, il y a 2-3 gamins qui l'ont suivi et en me donnant leur téléphone, en me demandant de prendre en photo avec Alexis. Donc, je me suis rendu compte que mon fils était une star des jeux vidéo. Donc, en fait, tout ce qu'il n'a pas fait au lycée et ses heures où il était enfermé, il les a mises à profit pour jouer. Voilà. Donc, il vit de ça maintenant. Il vit absolument de ça. Régulièrement, je lui demande s'il ne veut pas faire une formation autre. Il me dit que ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est de jouer, point. Après, je me suis renseignée sur ces gamins comme ça qui s'enferment, qui refusent d'aller en classe et qui vont plutôt dans le virtuel. On les appelle hikikomori parce qu'au Japon, c'est très très fréquent. Ces jeunes qui s'enferment, mais parfois pendant 2, 3, même 5 ans, même plus. Alors, on dit que c'est des gamins qui refusent l'excellence à laquelle les enfants sont soumis aujourd'hui, l'obsession des prépas, etc. Moi, honnêtement, j'ai pas du tout une impression de... Je vais même pas parler de prépa. Enfin, ce que je voulais, c'était qu'ils prennent plaisir à étudier, comme nous, on a pu le faire, mais c'est vraiment de la résistance passive. C'est la résistance passive. Il a toujours refusé d'être un bon élève, enfin, quand il a compris ce que ça voulait dire, hein, parce que petit, il l'était. Mais je me rappelle très bien qu'il y a un moment donné où c'était fixé 10-12 de moyenne, mais surtout pas plus. Comme quelqu'un qui refuse vraiment d'entrer dans le jeu du bon élève et de la réussite sociale, en fait. Encore une fois, alors soit c'était très inconscient de notre part avec mon mari, mais on n'a pas eu l'impression de le pousser, comme on n'a pas eu l'impression de pousser son frère. Mais c'est peut-être ce qu'il a ressenti, l'ambiance générale, je ne sais pas. Maintenant, il a 24 ans, il habite à Marseille. Donc là, j'essayais de prendre plus souvent de ses nouvelles parce que j'ai quand même toujours peur de ce retrait social. Hein. Donc j'essaie de prendre de ses nouvelles, j'en ai pas souvent, de lui-même jamais, hein, très très peu. Quand je lui envoie des textos en le harcelant un peu, au bout de 15 jours, il peut me répondre. Donc la communication n'est pas très fluide, mais c'est sa façon d'être. Il est un peu atypique, il ne communique que pour les choses essentielles. Je sais que sa marraine m'avait dit aussi, elle l'avait pris en stage à un moment donné, elle m'avait dit, il ne dit pas grand-chose, mais quand il dit quelque chose, c'est très intelligent, c'est essentiel, quoi. Donc c'est comme ça, c'est quelqu'un qui ne va pas parler de la pluie et du beau temps et qui donnera de ses nouvelles que quand il aura besoin. Mmh. En tant que mère, ce n'est pas facile, mais il faut l'accepter. On a eu quand même 10 ans de galère à essayer de le retirer de ses jeux, essayer de faire en sorte qu'il se réintègre à l'école, ça n'a pas marché. Mais maintenant, j'avoue que on se laisse porter au jour le jour. Maintenant, je lui fais confiance, c'est-à-dire que je sais que c'est quelqu'un qui est malin, qui arrivera à se débrouiller, oui, voilà, quoi qu'il arrive.
Il a de la ressource.
Oui, il a de la ressource.
Je m'appelle Corinne, je suis psy, j'écris des livres sur la société d'aujourd'hui. J'ai 2 enfants qui ont 28 et 25. Moi, j'ai été élevée dans les années 60, donc j'ai été élevée comme la plupart des enfants à ce moment-là, c'est-à-dire avec une espèce de négligence bienveillante. C'est-à-dire que nos parents nous aimaient, mais ils s'occupaient beaucoup moins de nous qu'aujourd'hui. C'est-à-dire quand on rentrait de l'école, on allait jouer dehors ou on bouquinait dans un coin. Personne s'occupait de savoir si on avait fait nos devoirs ou pas. Enfin, on nous demandait, t'as fait tes devoirs? Alors on disait oui. Non, moi j'ai fait différemment. Malheureusement, maintenant je m'en aperçois. Je me suis beaucoup occupée d'eux et je pense que si c'était à refaire, je ferais moins de choses en fait. Je les laisserais vraiment se débrouiller dans leur chambre. Ah bah maintenant je suis ravie parce qu'ils ont quitté la maison. Enfin, je les vois de temps en temps. Il y en a une qui a immigré très loin, donc je suis très contente pour elle parce qu'elle fait un métier qui la passionne. Elle a 28 ans, donc elle est tout à fait autonome, donc on a d'excellents rapports. Et elle fait exactement ce qu'elle veut dans la vie, elle est très déterminée, c'est une espèce de businesswoman, donc je l'admire beaucoup. Et puis l'autre, ça a été très difficile. Il s'est toujours très bien entendu avec sa sœur, mais ils sont très différents. Mais ça n'a pas changé beaucoup son attitude, en fait. Toute son éducation a été vraiment très, très difficile. Et, en fait, il ne voulait rien. Tout ce qu'on proposait, enfin, le simple fait d'aller à l'école, c'était très dur. Il ne voulait pas y aller. Enfin, il ne voulait rien, il ne voulait jamais. Ou il faisait mal, ou il bâclait. Il faisait des trous dans le mur de sa chambre. Enfin, je me souviens une fois, il a fait une expérience de chimie. Il a brûlé la moquette. Enfin, c'est tout à l'avenant. C'est une succession de problèmes, en fait. Ça n'arrêtait pas. C'était sans fin, je peux pas dire. Il allait pas à l'école, ou enfin tout était difficile. Hein, c'était un combat. C'est l'enfant qui dit non à tout. Il voulait pas se lever, il voulait pas faire, il voulait pas si. Il ramenait pas son cahier, il perdait ses affaires. Enfin, ça a été un souci permanent avec le stress de savoir que quelqu'un allait nous appeler. Ça pouvait être l'école, la police, l'hôpital. On a tout eu. Dès que mon téléphone sonnait, je voyais pas qui appelait, j'avais peur. J'ai vécu dans la peur pendant près de 20 ans. Je me souviens d'une fois où on a été convoqué par le directeur de l'école, parce qu'il avait fait je sais plus quoi, enfin je crois qu'il avait poussé un camarade dans l'escalier, enfin bon. Ça aurait pu être grave, hein, donc c'est tout à fait normal qu'on ait été convoqués, mais enfin, on s'est fait remonter les bretelles sous un bus de Marianne. Vous savez, dans les écoles, il y a des bus de Marianne. Et c'est vrai qu'on était très consternés, très concernés aussi, mais bon, voilà, on faisait de notre mieux, donc on avait vraiment la tête du parent très ennuyé, qui fait de son mieux et qui n'y arrive pas. Ulysse était toujours tranquille, en fait, il ne voyait pas le problème. Il ne travaillait jamais, en fait. J'ai essayé de suivre un peu, de voir s'il avait des exercices, au moins de récupérer les exercices. Rien que ça, récupérer le travail scolaire, c'était déjà très difficile, puisqu'il ne notait jamais. Il suivotait vaguement. Alors, il y a des moments où il a redoublé, et puis d'autres, il a réussi à passer de classe. S'il n'avait pas eu ses deux parents impliqués derrière lui, il n'y aurait jamais été. Il aurait complètement laissé tomber. Il serait resté dans son ordinateur ad vitam aeternam. Après, il jouait, donc on lui a mis des horaires, on a limité son temps de jeu. Enfin bon, ça a été... Qu'est-ce que c'est fatigant. Un jeune dans sa chambre, comme une sorte de gros animal familier, au fond, une sorte de gros chat un peu immobile, bon, qui est là. Bon, peut-être qu'un jour, il va sortir, mais c'est pas sûr. Avec tout ça, avec le côté démotivé, essayer de faire en sorte qu'il consulte, qu'il voit des psys et tout, ça n'a jamais rien donné. Il y allait une fois ou deux, et puis il ne retournait pas... Non, ça a été... Quand ça dure pendant 20 ans, c'est très dur, en fait. Et je me souviens, une fois, j'ai totalement craqué, et j'ai pris une de ces chemises que j'ai brûlée dans le jardin. J'ai un peu honte, enfin, je reconnais que c'est totalement absurde, et je pense que plutôt que de m'en prendre à lui, j'ai brûlé quelque chose qui lui appartenait. Et je ne sais même plus ce qui s'était passé juste avant. Mais on a eu des périodes de dépression complète, hein. À cause de lui, au fond. On se disait, mais c'est pas possible, on va pas y arriver, quoi. On n'y arrive pas, on peut pas gérer ça, on peut pas... Enfin, nous, on l'a éduqué un peu comme tout le monde, avec beaucoup de gentillesse, de compréhension, on a essayé d'arrondir les angles, etc. Je sais pas ce qui aurait convenu, mais ce qu'on a fait n'a pas convenu. C'est certain. Après, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. C'est un mystère total. De toute façon, c'est éduquer un enfant, c'est un cauchemar. C'est-à-dire, soit ça se passe bien et immédiatement, ça semble très simple et auquel cas, j'envie les parents qui vivent ce genre de situation que je n'ai pas vécu. Et soit c'est des questions de chaque moment sur est-ce que j'ai bien fait de faire ça, de dire ça, comment est-ce que je pourrais faire ci, ça. Donc c'est vraiment une prise de tête épouvantable. C'est quand on me parle de petits-enfants, intérieurement, mais je rigole, quoi. Je me dis, mais pas plus de 24 heures. Parce que c'est impossible. Même quand je vois des enfants, en fait, j'ai une sorte de réaction comme ça d'allergie, en fait. Je me dis, mais je suis au-delà de ça. Enfin, c'est fini, quoi. Plus jamais, jamais, jamais. Je n'en peux plus. Rien ne m'a plus fatiguée. J'ai détesté travailler en entreprise. Je pense que le monde entier l'a su. Mais à côté de ça, je pense que sincèrement, travailler en entreprise, forwarder des mails et parler de jargon, c'est reposant par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que nous avons vécu. Hein. En fait, c'est une sorte de pression psychologique, une sorte de truc psychologique permanent où on ne se sent pas à la hauteur, en fait. On fait pas ce qu'il faut. On sait en permanence qu'on est en échec, en fait, qu'on n'a pas la réaction qu'il faut. On fait pas ce qu'il faut. D'ailleurs, la preuve est là. Enfin, et on sait pas ce qu'il faudrait faire. Avec l'idée que peut-être un jour, il allait se décider à faire quelque chose de sa vie. Quand on approche des 25-30 ans et qu'il n'y a toujours aucune décision, enfin concrète, hein, concernant l'avenir, ça devient quand même... ça pose question. Donc, il y a eu des faux départs, il est revenu, il est reparti. Donc, c'était quand même assez tardif comme départ. Mais il est en train d'arriver à terminer ses études. Donc, normalement, ça devrait déboucher sur un beau métier. Et donc, je suis très soulagée. Alors, il ne travaille pas encore. Hein, donc, il y a encore une petite incertitude sur son avenir. Mais ça se présente bien. En ce moment, il se forme à la pâtisserie. Donc là, il est en stage. Et pour son stage, il est logé. Et j'espère qu'à la suite de son stage, il va se trouver un travail, pas forcément d'ailleurs là où j'habite. L'idée, ce serait mieux que ça soit ailleurs. Et que donc, assez logiquement, il trouve un logement là où il va travailler. Il fait très très bien les Paris-Brest. Donc ça, c'est quand même déjà un acquis fort. C'est qu'il fait ça sublimement. Donc je suis très confiante dans son avenir parce que le Paris-Brest est très difficile à réussir. Mais là, je pense que c'est bon. Donc j'ai mis tout en place pour qu'il ne revienne pas. C'est-à-dire j'ai remanié sa chambre. J'ai tout empilé dans des cartons que j'ai mis dans une autre pièce et j'ai remanié sa chambre en bureau. Donc je me sers comme bureau, ce qui fait que quand il revient, il s'aperçoit qu'il est chez moi comme un invité. Il n'est pas chez lui vraiment. Donc je pense qu'il y a un message fort qui, je pense, est passé. Je trouve que nos rapports se sont beaucoup améliorés parce qu'il est plus confiant en lui-même. Donc ça prouve que finalement les choses peuvent s'améliorer. Il y a de l'espoir, il y a un happy end à tout ça. Moi, là, maintenant, je ne me suis jamais autant éclatée de ma vie entière parce que je ne vis plus avec mes enfants. Là, je cherche même pas à les voir particulièrement parce que, en plus, bon, c'est vrai que j'ai tendance probablement à être une mère impliquée. Donc je sais que notamment avec mon fils, s'il m'appelle, ça va être pour me dire « j'ai un problème ». Maman, aide-moi. Et ça, non, surtout pas. Là, il va devoir se chercher un stage. Et je crains qu'une chose, c'est un appel. Je crains mon téléphone. Je me dis, il va encore m'appeler. Et je vais devoir faire quelque chose, peut-être. Et je vais le faire comme une idiote. Mais j'en fais trop, en fait. C'est vrai, c'est ma faute, en fait. Donc, c'est un enfer. Le mieux, c'est d'être sans eux. Où là, il n'y a même plus de questions, puisque je vis ma vie comme j'ai envie, finalement.
C'était des hikikomori de jeunes reclus. Un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Yael Mandelbaum. Merci à Manon et à Corinne. Attachée de production, c'est Jeanne Coppet. Notre stagiaire, c'est Solène Vanek Kovac.
I'm not afraid of the dark.